préférée.
Merci d'écouter RFI. 8h à Port-au-Prince, il est 13h en temps universel.
Contenaire.
Oui, voilà, Anne Contenaire. Dernière partie d'RFI Midi, nous sommes sur le continent américain et dans un instant, dossier sur les élections en Haïti que les autorités de transition veulent tenir dans les prochains mois. Un référendum constitutionnel en mai, un premier tour d'élection générale en novembre et ce malgré un contexte sécuritaire catastrophique. Reportage de notre correspondant à Port-au-Prince à suivre dans quelques minutes et puis analyse d'un expert de l'International Crisis Group. Et puis l'actualité des Outre-mer françaises comme chaque jour. Benoît Ferrand, nous irons avec vous tout à l'heure en Martinique. Suite aujourd'hui du procès en appel de Rodrigue Petitot, le leader du mouvement de contestation contre la vie chère.
Le chef de file du RPRAC conteste encore et toujours avoir appelé à s'en prendre physiquement aux élus. Reportage à suivre de nos confrères de la Première Martinique.
À tout à l'heure.
RFI Midi.
Le journal d'abord, l'essentiel de l'actualité internationale. Bonjour Karine Bellicha.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Nous allons d'abord à la Réunion où le cyclone Garance arrive, brutal et violent.
Ce sont les mots du préfet de l'île française de l'océan Indien. Même si l'alerte cyclonique a été rétrogradée de violette, le grade le plus élevé, à rouge, le confinement des habitants reste obligatoire. Un premier bilan fait état d'un mort et de deux personnes disparues. Lola Fourmi, vous êtes sur place. L'île est toujours balayée par des vents violents.
Eh oui, l'île a enregistré des vents records, même avec des rafales allant jusqu'à 234 km/h dans l'Est. C'est un record que l'on n'avait pas vu depuis 1962. Mais ce sont maintenant les trombes d'eau qui l'accompagnent, qui causent de lourds dégâts humains, vous l'avez dit déjà, puisque l'on sait qu'une femme d'une cinquantaine d'années est morte et deux autres personnes sont portées disparues, d'après la préfecture. Selon les médias locaux, la victime aurait été emportée dans une bouche d'égout à Saint-Denis. La pluie et les eaux qui montent sont maintenant le principal problème, avec des inondations majeures sur plusieurs zones de l'île, notamment à Saint-Denis, où des torrents se déversent dans les rues, emportant certaines voitures. Des milliers d'habitants ont affaire à des infiltrations, voire des inondations dans leur logement. Mais l'Ouest n'est pas épargné. Une route a en partie cédé à Saint-Leu. Les habitants de Sillaos et Salazie, les deux cirques de l'île, sont coupés du monde suite à des éboulis. Et puis nous sommes actuellement sans nouvelles de deux communes, Sainte-Rose et la Plaine des Palmistes, où la préfecture a envoyé des missions de reconnaissance. On sait aussi que plus de 40% de la population est privée d'électricité et plus de 80 000 personnes n'ont plus accès à l'eau potable. L'alerte rouge, on le rappelle, est encore en vigueur et devrait le rester plusieurs heures. La population doit éviter de sortir. Les risques de crues, notamment, sont très importants.
Lola Fourmi, en direct de La Réunion. Au Proche-Orient, à présent, le Hamas appelle à faire pression sur Israël pour entamer la deuxième phase du cessez-le-feu. Les discussions ont repris au Caire pour cette étape qui est censée débuter dimanche. Les négociateurs doivent obtenir le retour de tous les otages israéliens de Gaza en échange du retrait complet des troupes de l'État hébreu de l'enclave palestinienne pour permettre sa reconstruction et une résolution politique du conflit.
En Israël, ce sont les attentats du 7 octobre qui monopolisent toujours les débats.
Et l'armée reconnaît son échec complet après ces attaques. Conclusion d'une première enquête interne de grande ampleur publiée hier. Plus de 1200 personnes ont été tuées ce jour-là, 250 emmenées à Gaza comme otages. Le compte-rendu de l'enquête avec de Jérusalem, Michel Paul.
Un échec total, le commandement a complètement sous-estimé les capacités militaires de l'ennemi et a péché par excès de confiance. Ce sont les conclusions d'une enquête en interne de l'armée israélienne sur les événements du 7 octobre 2023. Israël était pris par surprise, non seulement en raison de l'ampleur et de l'envergure de l'attaque, mais aussi de sa brutalité, poursuit le rapport. Le chef de l'armée israélienne, le général Herzi Halevi, a aussitôt affirmé assumer l'entière responsabilité de ces événements.
J'étais le commandant de l'armée le 7 octobre et je porte l'entière responsabilité de ce qui s'est passé, la mienne et aussi celle de l'ensemble de l'armée.
L'assaut s'est produit en trois vagues successives, indique le rapport qui souligne que près de 5000 terroristes du Hamas et des milliers de civils gazaouis se sont infiltrés en Israël en l'espace de quelques heures. Un rapport choquant, ont estimé des habitants des kibboutz frontaliers, mais qui n'explique pas la défaillance colossale de l'armée. Trop peu, trop tard et surtout trop problématique, résume le commentateur militaire du quotidien Yediot Aharonot. Les médias parlent d'aveuglement et de conception erronée. Selon un sondage ce matin, 58% des Israéliens réclament la mise en place d'une commission d'enquête indépendante pour faire le jour sur ce qui est considéré ici comme le pire événement depuis la Shoah. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
En Grèce, les magasins sont fermés, les administrations désertées. L'appel à la grève générale est très suivi.
Et ce matin, des foules immenses, plus de 300 000 personnes sont descendues dans les rues d'Athènes et dans beaucoup d'autres villes du pays pour commémorer la catastrophe ferroviaire d'il y a tout juste 2 ans à Larissa. 57 personnes y étaient décédées, dont beaucoup de jeunes. Un accident devenu le symbole des graves négligences en matière de sécurité en Grèce et de l'incurie politique. Des heurts avec la police en marge de la manifestation à Athènes ont fait 5 blessés. Donald Trump n'a jamais traité Volodymyr Zelensky de dictateur. En tout cas, il ne s'en souvient pas. Un oubli qui arrive à point nommé alors que le président ukrainien sera reçu dans le bureau ovale aujourd'hui. Une rencontre annoncée comme décisive pour l'avenir de l'Ukraine. Kiev redoute toujours un règlement du conflit qui signerait sa capitulation alors qu'Américains et Russes se rapprochent de plus en plus.
Un réchauffement diplomatique entre les deux pays qui pourrait aussi redéfinir les relations entre Moscou et Pékin.
Ces alliés proches qui ont renforcé leurs liens depuis le début de la guerre en Ukraine, la Chine redoute l'éloignement de la Russie. Alors ce matin, Xi Jinping a reçu à Pékin le secrétaire du Conseil de sécurité russe, Sergueï Choïgou. Écoutez l'éclairage d'Emmanuel Véron, il est chercheur associé à l'école navale et à l'INALCO.
Les liens entre Moscou et Pékin, en fait, à ce stade aujourd'hui, demeurent extrêmement forts, extrêmement structurants, extrêmement profonds. Et en atteste la visite de Shoigu à Pékin ces dernières heures, pour parler de quoi ? Précisément de sujets stratégico-militaires et peut-être dans une certaine mesure politiques, mais d'abord et avant tout stratégico-militaires, c'est-à-dire quelles sont les postures d'échange, de liens, de coopération, de collaboration entre la Chine et la Russie dans un cadre militaire. Bien évidemment, il y a le revirement, ou en tout cas, il y a la volonté américaine d'écrire une nouvelle feuille de route diplomatique, notamment de vouloir détacher la Russie de la Chine. À ce stade, on n'y est pas. Et il est évident que Moscou va jouer sur les deux tableaux. Ce que peut-être va craindre Pékin, dans une certaine mesure, mais va compter sur le fait d'une imbrication, et d'où cette invitation, le fait de recevoir un Shoigu sur le territoire chinois.
Emmanuel Véron au micro d'Eike Schmidt.
Aux États-Unis, la tronçonneuse d'Elon Musk menace des milliers d'emplois.
Mise en œuvre par le milliardaire bradois de Donald Trump et son département pour l'efficacité gouvernementale, le Dodge, la campagne de licenciement massif des employés fédéraux connaît un coup d'arrêt. Hier, un juge a ordonné au gouvernement américain d'annuler ces renvois parce qu'ils sont illégaux. Pour autant, l'avenir des fonctionnaires reste très incertain. Joris Zilberman.
La décision constitue un revers pour l'administration Trump, mais dans les faits, les employés fédéraux sont toujours dans la confusion. Lors d'une audience à San Francisco, le juge William Alsup a certes été formel. Le bureau de la gestion du personnel, c'est-à-dire la DRH centrale de l'administration fédérale, n'a pas le pouvoir de licencier des employés d'une autre agence du gouvernement. Le juge a donc ordonné à ce bureau de retirer les directives envoyées à un certain nombre d'agences fédérales qui ont entraîné les licenciements de milliers d'employés, en particulier les salariés en période d'essai, dont le renvoi pur et simple est illégal, le Pentagone doit justement en congédier 5400 ce vendredi. C'est donc un répit temporaire accordé à une coalition syndicale qui a intenté une action en justice pour empêcher la grande purge d'une administration jugée pléthorique et négligente par Donald Trump. Mais le juge californien n'a pas pu ordonner au ministère de la Défense ni aux autres agences fédérales de ne pas mettre fin au contrat de leurs employés, car ces agences et ministères ne sont pas parties au procès en cours. Les fonctionnaires américains ont remporté une bataille, mais l'administration Trump n'a pas perdu la guerre.
Et c'est ainsi que se termine votre journal, Karine Bellicha. Il est 14h09 ici à Paris, c'est la dernière partie d'RFI Midi sur le continent américain. Et on prend tout de suite la direction d'Haïti.
RFI Midi. Gonaïve, 90.5 FM.
Les gangs poursuivent leurs attaques quotidiennes et s'en prennent aux symboles de l'État dans la capitale haïtienne. Ils ont visé hier le commissariat et selon le journal Le Nouvelliste, un responsable de la sécurité du Palais National a été touché par une balle alors qu'il venait porter secours aux policiers. Toujours d'après le grand quotidien haïtien, des déplacés installés dans le quartier, dans les environs du Champ de Mars, ont aussi été attaqués et ils ont dû chercher refuge ailleurs. Face à ces attaques qui se répètent et qui s'amplifient, les autorités multiplient les condamnations, mais sans que cela n'ait aucun effet, constate de son côté Alter Press. Et malgré cette situation sécuritaire catastrophique, les autorités de transition comptent bien organiser des élections dans les prochains mois. À l'occasion de ses 100 premiers jours au pouvoir, le Premier ministre avait présenté au début de la semaine ses ambitions, ses priorités. Il avait mis l'accent sur la sécurité et donc sur l'organisation des élections. Je vous propose de l'écouter.
Ces chantiers sont ceux que nous appelons les grands axes prioritaires de la transition. La sécurité et la question humanitaire, le référendum constitutionnel, les élections, le redressement économique, la justice et l'état de droit. Depuis 100 jours, nous suivons la feuille de route de la transition. C'est en ce sens que nous avions mis le cap sur les élections. En effet, le gouvernement a déployé des efforts considérables pour compléter le Conseil électoral provisoire et lui a doté d'un directeur exécutif appelé à fluidifier l'organisation électorale. Ces deux actions constituent une étape clé vers la réalisation d'élections libres et transparentes.
Alix Didier, fils aimé, le Premier ministre haïtien. Tout le monde n'est pas convaincu par la capacité des autorités à organiser des élections, loin de là. Certains citoyens parlent même d'un choix irresponsable, tout en estimant nécessaire un retour à l'ordre démocratique. Reportage à Port-au-Prince de notre correspondant Peterson Luxama.
À Port-au-Prince, l'organisation des élections reste une promesse encore floue pour beaucoup. Mais les réactions ne manquent pas. Gabi Jean est étudiant en gestion des collectivités territoriales. Selon lui, organiser des élections dans le contexte actuel est une aberration, une initiative mort-née.
Réaliser des élections dans ce contexte est d'une part un signe d'échec et d'autre part un signe de faiblesse. Échec parce que les problèmes actuels persisteront. Ceux qui sont en place ne résoudront pratiquement rien. Ils sont simplement là pour jouir des privilèges sans donner de résultats. Organiser ces élections, c'est permettre l'arrivée de nouveaux élus, mais les problèmes demeureront.
Mais tout problème a été. Le phénomène de l'insécurité reste une préoccupation majeure. Routes bloquées, autorités contraintes d'abandonner leurs bureaux en centre-ville pour fuir les bandits. Une situation qui pousse Gabi Jean à s'interroger sur la faisabilité du scrutin.
Pratiquement toutes les routes nationales menant à la capitale sont bloquées. Les membres du CPT et du gouvernement ne peuvent pas siéger dans leurs bureaux, notamment au Palais National et à la primature située en bas de la ville. Une première question se pose alors, où les futurs députés et sénateurs élus pourront-ils siéger, sachant qu'il leur est impossible de se rendre à l'endroit où se trouvait auparavant le Parlement ?
Côté parlementaire avant. Incertitude et incompréhension aussi chez Émilie Marcelin, étudiante en sciences politiques à l'Université d'État d'Haïti. Elle estime que l'objectif de réaliser des élections cette année n'est pas tenable. Toute organisation d'élections doit passer d'abord par la résolution de la crise sécuritaire, soutient Émilie.
Réaliser les élections dans ce contexte assez difficile n'est pas réaliste pour moi. Cependant, je crois qu'il est nécessaire de rétablir l'ordre constitutionnel. Et pour cela, nos dirigeants, nos autorités doivent agir de manière concrète pour reprendre le contrôle des territoires et pour créer des conditions afin de réaliser des élections crédibles et démocratiques dans ce pays.
Un point de vue que partage Maudley Fertile. Ce jeune politologue estime que la tenue des joutes électorales est essentielle pour renouveler la classe politique. Mais les organiser dans un contexte aussi délétère est un vœu pieux.
Oui,
organiser les élections est extrêmement important, mais pour qu'elles aient lieu, il faut d'abord garantir la sécurité, car les candidats doivent être en mesure de mener leur campagne électorale. Or, aujourd'hui, nous connaissons tous la réalité quand plusieurs routes nationales sont bloquées par des bandes armées. Dans ces conditions, organiser les élections est tout simplement impossible.
Vraiment impossible.
Cela fait près de 10 ans qu'aucune élection n'a été organisée en Haïti, plongeant le pays dans une crise politique persistante, sans aucun élu en fonction. Mais, même au sein du Conseil électoral provisoire, mis en place pour préparer les futurs scrutins, on doute. Patrick Saint-Hilaire en est le président.
Nous avons aussi nos propres inquiétudes comme Conseil électoral, aussi bien que comme citoyens haïtiens. Inquiétude d'abord par rapport à la situation sécuritaire. Et je voudrais tout de suite vous dire que la sécurité constitue une condition préalable à la réalisation des élections générales dans le pays.
Insécurité, inquiétude ou pas, le CEP n'entend pas faire machine arrière. L'organe électoral travaille au jour le jour pour aboutir à sa mission, mettre en branle la machine électorale, déclare Patrick Saint-Hilaire.
Nous sommes en contact permanent avec les autorités de l'exécutif. Nous discutons régulièrement de la situation sécuritaire. Nous ne pouvons pas décider de la situation sécuritaire. Nous ne pouvons pas décider de ce qui concerne la sécurité dans le pays. Nous faisons ce qui dépend, ce qui relève de notre mandat comme conseil électoral provisoire.
Chacun se renvoie la balle et peu ose croire en la tenue d'un référendum constitutionnel dès ce printemps, comme annoncé par les autorités. Peterson Luxama, Port-au-Prince. RFI.
Le défi des élections en Haïti, cette question, elle est aussi au cœur d'un rapport publié tout récemment par l'International Crisis Group. Et nous sommes en ligne avec l'un des experts pour Haïti de cette organisation. Bonjour Diego Darin.
Bonjour.
Les autorités de transition ont donc prévu d'organiser un référendum constitutionnel au mois de mai et le premier tour des élections en novembre. Est-ce que ces délais vous semblent tenables et souhaitables ?
Écoutez, oui. Comme vous le dites, les autorités espèrent faire un référendum dans plus ou moins 3 mois. Puis un premier tour des élections en novembre et un deuxième tour en janvier de l'année prochaine pour arriver à passer le pouvoir à de nouvelles autorités en février 2026 comme il se l'était proposé lorsque le gouvernement a été créé entre mars et avril de l'année dernière. Mais cet objectif ne pourra être atteint que si des mesures immédiates et radicales sont prises pour améliorer la sécurité en Haïti. Sinon, il serait déconseillable de tenir des élections, bien sûr, dans le contexte sécuritaire chaotique actuel. Les gangs contrôlent, selon des estimations de l'ONU, plus ou moins 90% de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, la capitale, et une grande partie du département de l'Artibonite. Donc, entre le département de l'Ouest, où est localisée la capitale, et l'Artibonite, ces départements ont représenté plus ou moins 54% du total des votes au niveau national lors des dernières élections qui ont eu lieu en 2016. C'est-à-dire que les gangs contrôlent plus ou moins la moitié des potentiels d'électeurs lors des élections qui devraient avoir lieu cette année.
Et est-ce qu'on a une idée du rôle que pourraient jouer les gangs si les élections avaient lieu ? Est-ce qu'ils seraient susceptibles d'empêcher le scrutin ou au contraire de l'influencer pour obtenir des postes et placer certains des leurs à des hautes responsabilités ?
Non, bien sûr, les gangs sont intéressés pour le fait qu'il y ait des élections. Cela leur permettrait de réactualiser leur pacte avec certains partis politiques qui vont très certainement faire recours à eux pour qu'ils les aident à avoir une plus grande chance de gagner les élections puisqu'ils contrôlent ces zones qui sont très densément peuplées et qui, avec des votes qui sont bien sûr très convoités par tous les groupes politiques.
Quels seraient les critères minimums pour pouvoir garantir une élection crédible ?
Plutôt que de fixer une limite ou une date stricte pour le scrutin, il faudrait que l'administration transitoire définisse des critères clairs à remplir avant de pouvoir organiser des élections, que ce soit au niveau logistique, financier, mais surtout au niveau sécuritaire. Sachant que des élections, de toute façon, devront avoir lieu au milieu d'un certain degré de violence, parce que si on attend à ce que le problème des gangs soit totalement résolu, si cela est possible, on pourrait en avoir pour des années et des années. Mais le gouvernement en est haïtien en consultation avec ses partenaires internationaux, dont l'ONU, devrait définir un seuil de sécurité minimal, qui serait à eux de définir, devant être atteint pour qu'un scrutin puisse être organisé.
Et qu'est-ce qui serait recommandable selon vous ?
On n'a pas émis des recommandations sur ce point, mais il serait au moins désirable d'avoir un niveau de contrôle de la capitale et d'autres régions tel qu'il était il y a quelques années lorsque l'État contrôlait au moins la moitié de la capitale. Si cela est possible, d'ici un an plus ou moins, on pourrait envisager, comme semble l'envisager l'actuel président du Conseil présidentiel de transition, d'organiser des élections en laissant de côté certaines zones contrôlées par les gangs et en établissant des bureaux de vote dans ce qu'il a appelé des zones libres.
Pour l'instant, le calendrier initial est toujours maintenu, au moins dans les mots. La communauté internationale aussi insiste beaucoup pour que ces élections aient lieu. Pourquoi à ce point-là, à votre avis ?
Parce qu'il n'y a pas d'élection en Haïti depuis environ une décennie. Les dernières élections qui ont eu lieu, c'est en 2016. Il n'y a aucun représentant politique élu qui soit dans sa position. Il y a un parlement qui est dysfonctionnel depuis 2020. Il y a des autorités locales qui ont été nommées de manière discrétionnaire par l'ancien président Jovenel Moïse. Donc il y a un besoin pressant d'avoir de nouvelles autorités qui soient démocratiquement élues, qui aient plus de légitimité, non seulement pour diriger le pays, mais aussi pour être la contrepartie des négociations avec des partenaires internationaux.
La date la plus proche, elle concerne le référendum constitutionnel, donc prévu en principe au mois de mai. Qu'est-ce qu'on sait de ce projet de nouvelle constitution ?
En fait, il s'agit ici non pas d'une réforme cosmétique ou de quelques éléments spécifiques de la Constitution, mais d'une volonté de changer complètement la Constitution. Parmi les changements qui sont envisagés, même si on ne sait pas où en est le projet de brouillon de la nouvelle Constitution, selon le décret qui a mandaté les différents groupes qui travaillent là-dessus, il serait question d'envisager un changement peut-être d'équilibre entre le pouvoir exécutif et législatif, peut-être de changer, d'avoir deux chambres, à avoir un régime monocaméral, d'avoir un régime présidentiel, d'éliminer le poste de Premier ministre éventuellement, comme l'avait envisagé le président Jovenel Moïse, la commission qu'il avait établie. Donc, c'est des changements qui sont radicaux. Et il n'y a pas un processus suffisamment inclusif pour différentes raisons pour arriver à mener à bien cette consultation. Donc il est peu désirable de faire une réforme aussi ambitieuse dans les conditions actuelles.
Merci Diego Darin, expert à l'International Crisis Group. Un mot encore de l'actualité haïtienne. Ce vendredi, le pays rend hommage à l'artiste Franck Etienne, décédé la semaine dernière à 88 ans. Dramaturge, poète, comédien, musicien, Franck Etienne avait signé en 1975 le premier roman écrit en créole haïtien, Desafi, traduit ensuite en anglais et en français. Il fut aussi le premier titulaire du ministère de la Culture, nous rappelle le site Alter Press. C'était en 1988.
RFI, la radio del mundo.
L'actualité du continent, c'est aussi la mise à exécution d'une promesse de campagne de Donald Trump. Nous vous en parlions hier dans notre revue de presse. Le président américain a retiré l'autorisation d'exploiter le pétrole au Venezuela, une exception aux sanctions qui était en vigueur depuis presque 3 ans et qui bénéficiait à plusieurs entreprises américaines, dont le géant Chevron. Dès demain, ça sera fini. L'entreprise ne pourra plus extraire de brut au Venezuela et ça risque de peser lourd pour le pays et pour tout le monde, selon les responsables politiques vénézuéliens. Alice Campagnol.
C'est Delcy Rodriguez la première qui a réagi quelques heures après l'annonce de Donald Trump. La vice-présidente vénézuélienne a fustigé une décision nocive et inexplicable qui serait nuisible surtout pour Washington qui aurait besoin, selon elle, du brut vénézuélien. Même son de cloche hier à l'Assemblée nationale. Oscar Ronderos, député d'un parti d'opposition réputé inféodé au pouvoir en place.
Cette décision du gouvernement des États-Unis est nocive. Si les sanctions continuent à étouffer le pays, les Vénézuéliens continueront à partir et on les retrouvera à la frontière sud des États-Unis à la recherche d'une vie meilleure.
Quant à la chef de file de l'opposition, Maria Corina Machado, ennemie publique numéro 1 pour Nicolas Maduro, elle s'est félicitée de cette décision. C'était la bonne chose à faire, a-t-elle dit. Le président Trump est du côté du peuple vénézuélien. Pourtant, les économistes prévoient une baisse de 25% de la production pétrolière et un impact très fort sur l'économie vénézuélienne qui s'était stabilisée ces dernières années, notamment grâce à l'extraction de brut. Alice Campagnol, Caracas, RFI.
Il est 14h24 ici à Paris.
RFI Midi.
On vous retrouve, Benoît Ferrand, pour l'actualité des Outre-mer françaises avec la Martinique. D'abord, c'est la suite aujourd'hui du procès en appel de Rodrigue Petitot, le leader du mouvement de contestation contre la vie chère.
Poursuivi et condamné en première instance pour avoir déclaré qu'il fallait attaquer la classe politique locale, le chef de file du RPRAC conteste encore et toujours avoir voulu s'en prendre physiquement aux élus. Reportage Alain Livory.
Les députés William, Nilor et Nado et le maire du Gros-Morne, Gilbert Couturier, ont été cités comme témoins par les avocats de Rodrigue Petitot. Ils devaient répondre à une principale question. Se sont-ils sentis menacés quand, dans une vidéo, le leader du RPRAC avait employé en créole le mot « attaquer » en désignant des maires? La réponse des élus est unanime. Aucun ne s'est senti menacé ou en danger. Écoutez les députés Marcelin Nado et Jean-Philippe Nilor.
On ne pouvait pas se sentir menacé. Quand on est créolophone, élu de Martinique, on connaît le langage politique. Des fois, il peut prendre un caractère plus ou moins virulent, mais on sait de quoi ça relève. Ça relève du politique et rien que du politique.
Son discours, c'est un discours politique. On peut être d'accord ou pas avec lui. Donc, on est dans un débat politique.
Les avocats de la défense vont demander la relaxe de leurs clients. S'ils ne l'obtiennent pas, ils pourraient se pourvoir en cassation.
On reste en Martinique avec un sujet plus ludique, le début des jours gras, le point d'orgue des festivités carnavalesques. Une période de quelques jours, comment dire, assez éprouvante physiquement. Reportage Christine Cupit.
Le carnaval, c'est un peu comme une course d'endurance. Il faut pouvoir tenir sur toute la distance. 5 jours de liesse populaire, de jour comme de nuit. Alors mieux vaut se préparer pour garder la forme. Les habitués ont leur recette.
On prend des oranges, on prend tout ce qu'il y a comme vitamines pour pouvoir tenir. Parce qu'il y a le vidé, il y a les soirées. Alors il faut prendre beaucoup de vitamines en passant en pharmacie. Vous savez déjà quoi? Les vitamines C, voilà. Mais naturel, orange, s'il reste des mandarines, des clémentines, on prend tout ça. Et puis un petit sommeil, on dort. Quand on sort de la soirée, on va dormir et puis après rebelote pour 14 heures.
Le rythme effréné du carnaval laisse très peu de temps pour le repos. Alors certains se tournent vers les remèdes rasiers afin de faire le plein de vitamines. Géoni vend ses produits sur le marché couvert de Fort-de-France. Ses clients viennent la voir quelques jours avant les jours gras pour ses plantes médicinales.
Ils viennent 2-3 jours à l'avance. Ils m'ont demandé du moringa, ils m'ont demandé de la basilic, un peu de citronnelle, de la groseille pays et du gingembre. Ils vont faire une décoction avec ça pour boire toute la journée, pour donner de la force aux jambes pour courir le carnaval. Et après le carnaval, ils font une bonne soupe pour se rebooster.
Et une petite soupe pour terminer. Bon après-midi, bon week-end, Anne, à lundi.
À lundi, Benoît Ferrand. Merci d'être avec nous, on va se quitter avec un peu de musique. Celle du chanteur et compositeur américain José James. They Sleep, We Grind, c'est son dernier single.
Time.
Et c'est avec José James que se termine RFI Midi pour aujourd'hui. L'émission était réalisée ce vendredi par Yann Eligouin. On vous retrouve lundi prochain, 11h30, temps universel. Et pour l'heure, vous avez rendez-vous avec Catherine Fruchon-Toussaint pour l'émission Littérature sans frontières. Très bonne journée à tous. Universal truth vibration, yeah. Thanks and praise to the Most High. And we raise to the Most High. No more pain to the Most High.